France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le modernisme anglo-saxon, outre son contenu idéologique et esthétique, son désir d'hybridation et de fragmentation, a vu naître un procédé littéraire bien particulier, le « stream of consciousness », qu'on traduit souvent en français par « discours intérieur ». Cette traduction est malheureusement bien pauvre. Le « stream of consciousness » évoque un flot de paroles, voire même une cascade sans fin, sans contrôle, où la parole se déverse sans cesse de sa source mystérieuse à l'intérieur de nous. Chez Joyce, par exemple, le résultat est si proche d'une émanation organique de mots et de pensées qu'il en devient parfois opaque, voire pour certains illisible, comme son Ulysse, Everest de la littérature moderne que seuls les plus courageux osent gravir. Il y a bien sûr des streams of consciousness plus contrôlés, comme chez Virginia Woolf, sans pour autant perdre cette authenticité. C'est pour cela que la lectrice ou le lecteur se sent toujours aussi proche de ces personnages, dont l'intériorité est donnée à voir sans artifice. Ce procédé permet aussi de projeter le roman dans une nouvelle temporalité, celle d'un présent éternel, d'un discours qui ne semble jamais appartenir à un autre moment que celui de son émergence immédiate. Ce présent éternel, ce discours intérieur, on le retrouve aussi sur un autre mode dans l'écriture de Nathalie Sarraute. Chez elle, c'est un instant qui se dilate en plusieurs pages, un mouvement intérieur invisible qui devient le centre du roman. Elle n'utilise quasi jamais, mis à part dans son récit autobiographique Enfance, la première personne du singulier. Chez elle, le langage effleure, cache, se suspend, sans jamais pouvoir saisir la chose même de la pensée. C'est précisément sur les particularités de ce discours intérieur pas comme les autres que revient l'autrice des Fruits d'or, dans ce numéro des Chemins de la connaissance de Viviane Forrester. Sarraute face aux écritures de l'intériorité, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 28 juin 1974.
Nathalie Sarraute, le discours intérieur, c'est-à-dire « the stream of consciousness », quand des écrivains comme Joyce, comme Virginia Woolf et d'autres sont peut-être rentrés en eux-mêmes et ont écouté autre chose que les informations qui étaient données plus tôt, je crois que ça a permis de dire davantage et d'approcher davantage ce qu'il y avait à dire. Mais vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez dépassé ce qu'on appelle le monologue, le discours intérieur, the stream of consciousness.
Je dois dire que j'étais très frappée par le monologue intérieur joycien et aussi par les romans de Virginia Woolf que j'ai beaucoup aimé. Et il est certain que je n'aurais pas pu travailler comme je l'ai fait s'ils n'avaient pas écrit avant moi, je pense, si je n'avais jamais lu leurs œuvres. Mais je crois qu'il y a une différence fondamentale chez moi avec le monologue intérieur joycien, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de mots qui se déroulent, d'un discours qui traverse sans arrêt la conscience, comme le ruban d'un téléscripteur. Ce ne sont pas des mots prononcés intérieurement. Ce sont des sensations très fugitives, très floues, difficiles à définir et que j'essaye de rendre par des images surtout, qui donnent au lecteur une sensation analogue. Ce sont des images qui sont des images très simples, très grossières, volontairement simples et grossières pour que le lecteur aussitôt sente ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer se passe à une très grande vitesse. On n'a pas de temps à perdre pour s'arrêter à la métaphore, à l'image, se demander ce qu'elle signifie. Il faut que la sensation soit ressentie immédiatement. Et alors, je crois que la grande différence, on m'a toujours parlé de l'influence qu'a pu exercer sur moi Virginia Woolf. Ça m'a souvent énormément agacée. Simplement parce qu'on compare toujours les femmes entre elles et qu'on a l'air d'imaginer que seules les femmes peuvent exercer une influence sur d'autres femmes. Et ainsi, par exemple, on m'a attribué comme mère, si je puis dire, Ivy Compton Burnett, dont j'ai parlé avec beaucoup d'éloges et que j'ai lu pour la première fois quand j'avais déjà publié 3 ou 4 ouvrages et qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. C'est à peu près le contraire de ce que je fais. Parce que tout est dans le dialogue. Et les mouvements intérieurs sont pris, captés par le dialogue, alors que chez moi, c'est sous le dialogue que tout se passe. Alors, j'étais un peu agacée par cette continuelle attribution de Virginia Woolf comme mon maître. Mais je l'admire depuis toujours énormément. Mais il y a une différence qui me paraît fondamentale, parce qu'il me semble que ce qui est intéressant, c'est de montrer plutôt les différences entre les écrivains que les ressemblances. Alors, la différence fondamentale, c'est que chez moi, tout est en hyperactivité. Il s'agit constamment d'une sorte de drame, avec toutes sortes d'épisodes. Chaque chapitre est comme un drame à épisodes, assez précis, avec une action très précise, et une action qui est constituée par ces tropismes, par ces mouvements. Il s'agit toujours d'une lutte, souvent d'une lutte à mort. Et ce n'est pas du tout une conscience ouverte dans laquelle le monde défile, une conscience qui est ouverte, sereine, comme doit l'être une conscience ouverte à tout ce qu'on appelle la poésie. Et comme est la conscience, généralement, de tous les personnages de Virginia Woolf, c'est d'ailleurs pour une raison pour laquelle je les aime. Je me suis toujours sentie très bien dans un état d'euphorie quand je lisais certains de ses livres. Chez moi, c'est une lutte à mort, c'est un combat. Et c'est un combat qui est assez sournois parce qu'il se passe toujours sous une apparence anodine. Il y a toujours, au dehors, une apparence extrêmement banale, extrêmement anodine. Au dehors, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et par en dessous, se passent des choses qui ont une très grande gravité et qui sont souvent des combats mortels. Et ce sont toutes les phases de ces combats qui m'intéressent.
Et ces combats sont vécus par des gens qui ne savent pas, au fond, qu'ils sont aux prises. Ils ont une impression de malaise. C'est une lutte à mort qu'ils mènent.
Cette lutte, on ne la découvre finalement que quand on regarde au microscope tous ces mouvements. Et en cela, justement, la lecture de Proust a été pour moi quelque chose d'énorme, de déterminant. Quand j'ai lu Proust avant d'avoir lu Ulysse. J'ai d'abord lu Proust, puis Ulysse. J'ai lu Proust en 1923 et Ulysse l'année d'après. Eh bien, toute cette vie microscopique est animée, mais dans la conscience, ne se révèle pas autrement que par un sentiment de vague malaise, par exemple. C'est tout ce qu'on arrive à se dire consciemment. Et c'est seulement en regardant au microscope, en développant tous ces mouvements, en les grossissant énormément, qu'on arrive à retrouver ce qui s'est très rapidement produit à l'insu de la personne qui l'éprouve et qui aboutit à quelque chose dont on dit, par exemple, ce rire m'était désagréable ou c'était très agaçant d'entendre rire comme ça. C'est à peu près le maximum de ce qu'on peut dire. On dira comme ce silence était pesant. C'est tout. Ce sont des moments très brefs qui ne se produisent pas tellement souvent, mais j'essaye de m'attacher à ces moments-là où quelque chose, comme un catalyseur, a produit cette espèce de réaction, de lutte, et de saisir tous ces mouvements et de les développer. C'est ça qui m'intéresse.
Je suis en train de penser que justement pour Proust, ça aurait été une découverte très extraordinaire, justement, c'est de voir le développement de ces moments, parce que lui vivait, mais d'une façon justement beaucoup plus instinctive, ce malaise, ce malheur, cette difficulté.
N'est-ce pas? Il le vivait dans le passé, c'est-à-dire que quand la chose était terminée, il le revoyait et l'analysait, encore à la manière des analystes.
C'est ça, comme
fois,
du passé.
Comme du passé. Et tout cet univers microscopique, c'est tout de même Joyce, avec le monologue intérieur, qui l'a mise en mouvement.
Oui.
N'est-ce pas? Et alors, moi je dois dire, enfin, ce sont des comparaisons qui manquent tout à fait de modestie, je dois dire que moi, je prends à des moments qui sont très limités, si vous voulez. Proust a étendu son domaine, c'est quelque chose d'immense qu'il a découvert. Moi j'essaye de prendre un moment, juste un moment, et de montrer la chose tandis qu'elle se fait, en train de se faire. C'est un drame qui est en train de se jouer, dont moi-même je ne sais pas comment il va se déployer et où il aboutira. Ce n'est pas une chose déjà passée que j'analyse calmement. Je suis entraînée par le mouvement lui-même. Ça se fait, c'est en train de se faire, c'est en train de se passer, c'est toujours au présent. Ce n'est pas c'est du ça. Tout une analyse, une décortication, c'est une reconstitution, une recréation d'une action.
C'est le présent dilaté.
Dilaté, c'est cela.
Et le présent aussi que vous maintenez là, ce qui doit être atroce.
Il faut se limiter à cette action.
Oui.
C'est justement cette différence, n'est-ce pas ? Il n'y a pas une conscience ouverte, comme chez Bloom, ou mettons chez Mrs. Ramsey dans La promenade au phare, dans laquelle le monde s'engouffre,
oui.
Le monde la traverse comme un fleuve. Ici, il faut se centrer uniquement sur l'action dramatique. On n'a pas le temps de se distraire parce qu'il n'y a pas un moment à perdre. Il se passe quelque chose ou une lutte, un combat.
C'est ça.
Alors comme au moment d'un combat ou d'un duel, il n'est pas question de penser à autre chose et de regarder la nature autour de soi.
Oui.
N'est-ce pas ?
Oui. Il n'y a pas un interstice. D'ailleurs, si on regarde la nature
place
autour
pour autre
de
chose,
soi, les...
on ne peut plus se combattre, n'est-ce pas ?
C'est ça. C'est le plein absolu.
C'est cela. Alors je suis obligée de me centrer là-dessus.
Ça doit être d'ailleurs un travail très terrifiant de maintenir ce moment, parce que le temps qui passe sauve un peu. On se rend compte comme le temps, en fait, a une action qui sauve l'instant, qui permet de supporter, de vivre.
Seulement, c'est
instant.
Le contraire, n'est-ce pas ? C'est le contraire du réalisme, si on veut, dans ce sens que ça n'a plus rien à voir avec la vie courante. C'est quelque chose, c'est une espèce de convention, comme il y en a toujours en littérature, dans laquelle on dirait qu'il n'y a que ça. On prend ce moment-là et on se limite à ça.
C'est ça.
Alors qu'il y a tout ce qu'on veut, n'est-ce pas ?
Oui, mais il y a là un moment anodin. Par exemple, je pense à votre dernier livre, vous les entendez, il y a un moment anodin où... Apparemment, enfin, vu de l'extérieur, on verrait une maison paisible à la campagne et des gens tout à fait paisibles, un groupe de jeunes et puis deux hommes plus âgés. En vérité, c'est un de ces moments où il ne se passe rien, des moments paisibles de l'existence. Et en fait, il se passe tout ce qu'on peut imaginer de plus terrifiant, tous les fantasmes, toutes les luttes. Et puis cette parole qu'on ne peut pas... On ne peut pas prendre individuellement, en tout cas, on a l'impression
c'est cela,
que...
Il y a d'ailleurs là un mélange de ces consciences que j'ai prises volontairement dans la même famille pour qu'elles soient plus proches, par une sorte de phénomène d'osmose.
Oui.
Chacun sent ce que l'autre sent, qu'il sent. Ces courants passent des uns aux autres. Je voulais que ça fasse une sorte de conscience globale, finalement, ce père et ses enfants. Et alors, là aussi, tout est centré autour de ces rires. Il n'est pas question de s'en distraire un seul instant. Alors que dans la réalité, il y aurait tout ça, bien d'autres choses, probablement. Mais il faut se centrer sur ces instants où il rit. Ce sont des instants qui sont brefs, finalement. Et sur tout ce que ces rires provoquent. C'est comme une réaction chimique, n'est-ce pas ? On verse un acide et alors il faut voir ce qui se passe.
Oui, et ces rires qui sont le contraire de ce qu'on peut croire que le rire est, en fait, parce que il y a justement tous les conflits qui existent là sont exacerbés par le rire.
C'est cela. Et alors, il fallait que ce rire ait l'air anodin. Et pour cela, il me fallait justement le personnage de l'ami, qui est hors du coup, si je puis dire, qui entend cela justement comme la chose la plus anodine.
Oui, il entend des rires qui s'égrènent.
Des rires qui sont très gentils, qui dit tout le temps, mais qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, il n'y a rien, laissez-les donc. Parce qu'il faut qu'ils aient l'air anodins en apparence. Parce que ce qui m'intéresse justement, c'est ce contraste entre l'apparence anodine et ce qui se passe quand on ouvre cette apparence.
Et là, on a l'impression aussi que toute la parole, en fait, puisque parle du discours, en fait, toute parole, tout discours, vraiment s'effondre dans ce rire, que le rire submerge complètement, que c'est le contraire de la parole.
Oui, c'est ce que
parole.
Je souhaitais, en tout cas.
Et c'est très terrible. Et on a l'impression, à lire ce livre, que c'est un rire qui vient du fond des temps et qui retourne. C'est très situé dans l'espace, dans le temps. Puis on a l'impression vraiment que c'est sur une terre, comme ça, dans l'histoire, et dans la nuit des temps, en vérité, où on a essayé de parler, puis on ne peut pas rire. Ce drame et cette souffrance. On pense plutôt à la souffrance de Proust qu'à la souffrance de chez Dostoevsky.
Je dois dire que j'aime énormément Dostoevsky.
Oui.
Et depuis l'âge de 15 ans, j'ai lu Dostoevsky... connais très très bien son œuvre. Je crois que une des choses que Dostoïevski m'a donné, c'est quand je pensais que ce que j'étais en train d'écrire était tout à fait fou. Ça m'est encore arrivé avec ce dernier livre. Je me disais, enfin là, ça devient vraiment fou d'arriver à imaginer ce que des rires pareils peuvent contenir. Eh bien, il m'a montré qu'on pouvait introduire dans la littérature les choses considérées par tout le monde, par les gens censés comme les plus folles, et qu'elles avaient droit de citer. Que puisque je le sens comme ça, c'est comme ça.
C'est comme ça. Choses les plus contradictoires, les plus démentes. Oui.
C'est une extraordinaire leçon. N'est-ce pas ? Et il disait, il faut qu'un écrivain soit convaincu que ce qu'il écrit, c'est véritablement ressenti. Et alors je me disais, mais puisque je sais, que je le sens comme ça, ça me donne une sorte de droit de le faire. Parce que c'est très difficile d'écrire des choses comme ça quand la plupart des gens, et encore maintenant, vous disent « ça ne répond pas à ce que je ressens, ça n'est pas ainsi, c'est de la folie ».
Il y a justement cette impossibilité aussi d'être, je ne veux pas dire de communiquer, mais justement l'autre dans... Vous les entendez, c'est tout à fait ailleurs et en même temps, il n'y a pas d'ailleurs. On a l'impression, enfin ça, je m'exprime mal, mais on a l'impression que on ne peut pas, par la parole en tout cas, aller ailleurs. Oui. Que l'autre y est aussi, donc on dit la même chose. Et en vérité, on ne peut pas non plus être l'autre.
Il y a le drame, non pas de la séparation peut-être, mais même la trop grande communication.
Oui.
Ils finissent, n'est-ce pas, par être noués comme une seule conscience. Ils sont chacun les facettes d'une même conscience, finalement. Ils se connaissent à un tel point.
Oui.
Ils se pénètrent à un tel degré. Il y a une telle osmose entre eux que cette présence dans chacun de tous les autres est quelque chose qui...
Et est-ce que c'est la parole ? Est-ce que c'est, le, je veux dire, le mot qui est cette
c'est
masse ?
C'est en dehors de la parole, oui, ce qui se passe. Et alors, c'est uniquement l'écriture qui, par un artifice, essaye de faire exister ce qui se passe, à mon avis, hors des mots. Les mots font exister,
oui,
quelque chose qui, avant les mots, n'est rien. C'est une velléité, un pressentiment, quelque chose de très flou, une sensation à peine discible. Et les mots, par un artifice, arrivent à faire que ça se met à exister. D'une manière, à mon avis, beaucoup plus simplifiée, plus fruste, plus grossière que ça n'est en réalité si on avait pu encore avoir un langage qui serait un langage moins convenu, moins réglementé.
Prédit.
C'est cela.
Plusieurs de vos livres, d'ailleurs, sont le combat alors, de l'écrivain qui est aux prises avec son livre, avec toutes sortes de, alors de discours sur son livre.
C'est cela, c'est-à-dire qu'il est aux prises à la fois avec la substance qu'il travaille,
oui,
il est aux prises avec la société qui l'entoure, dont il voudrait s'écarter pour être seul, parce que c'est le seul moyen pour lui de pouvoir accéder à ces domaines qui sont à lui, mais en même temps, il a besoin des autres. Il faut constamment qu'il aille vers eux, pour les appeler à son secours, pour leur montrer.
Pour leur faire entendre.
Pour leur faire entendre, parce que sans eux, ce n'est rien. Il faut une collaboration. Alors c'est un mouvement de va-et-vient constant entre lui et les autres.
Et il y a aussi un gouffre dans leur écoute.
Oui.
C'est toujours la même menace.
Oui, parce que ils ont tendance à détruire ce à quoi il tient, justement.
Et la solitude, vous parliez de Virginia Woolf et de ses états presque d'extase, au fond. Est-ce que c'est parce que ce sont des moments solitaires, des moments de distanciation avec les autres? Il y a une distance.
Oui, il y a une distance, et je crois que de cette distance vient cette sérénité.
Oui.
Ce calme, cette dignité des personnages de Virginia Woolf. une distance qui est même du personnage à l'égard de lui-même. C'est d'ailleurs très anglais. Le personnage, à l'égard de lui-même, a une certaine pudeur, a un certain respect de soi. C'est exactement ce qui manque totalement à mes consciences agitées. Ce qui se passe là est absolument hors des catégories de la morale, et même si on veut, de la psychologie. C'est autre chose.
C'est vrai, ils n'ont aucun recours. C'est vraiment la vie crue.
Ils sont à l'état nu. Ils sont totalement nus.
Écorchés, au fond. C'est comme un crâne ouvert envers le cerveau.
C'est un monde c'est presque aux antipodes du monde de Virginia Woolf.
Oui. En fait, c'est un monde de torture.
Oui, certainement.
C'est vraiment le moment de la torture, le moment où tout est à vif et où il n'y a plus de protection, plus de recours. Sauf le temps qui passe, mais que vous arrêtez.
Le temps s'arrête pendant que cette chose-là se passe.
Oui. Et il n'y a que l'écriture qui puisse rendre compte de ces moments.
Je ne vois rien d'autre qui puisse en rendre compte. Ni l'image cinématographique, ce serait impossible. Ça donnerait une image, une telle simplification. Je crois qu'on retomberait dans la psychologie la plus banale, des choses les plus simples. Je crois que je ne vois rien d'autre que l'écriture pour arriver à rendre ces états, ces mouvements intérieurs.
La surface de la page qui, elle, attend et qui a le temps.
Parce que l'écriture se glisse plus facilement.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Et arrive à porter ces choses-là.
Et puis vous avez le temps d'attendre, vous, et d'écouter.
Oui, bien sûr.
Tous ces temps relatifs, tous ces temps à découvrir, au fond.
La chose qu'on voit en train de se faire.
C'est ça.
On suit l'action.
Et en train d'être subi aussi.
Oui.
Parce que vous témoignez aussi de la conscience qui subit.
Vous voyez, par exemple, moi, je n'ai jamais conscience qu'il y ait là de la souffrance.
Ah oui?
Jamais. Et en l'écrivant, je n'ai jamais l'impression de dire... Le mot souffrance ne s'applique pas à cela. Je suis comme hors de tout cela. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Et à quoi ni le mot souffrance, ni le mot joie ne s'appliquent. C'est comme ça, c'est tout. Je n'y vois rien, n'est-ce pas, sur quoi on puisse mettre un mot comme souffrance, haine, amour, etc. C'est quelque chose qui me paraît être tout à fait hors de ces définitions.
Oui, parce que, après tout, la souffrance est aussi un résumé de ce qui s'est passé, c'est
exactement,
au passé.
Exactement, c'est un résumé, tandis que là... C'est une décomposition telle que le mot souffrance ne tient plus.
Oui.
Il y a trop de choses, ce n'est plus de la souffrance. Et alors, je crois que si je me disais, par exemple, c'est de la souffrance, mon attention serait détournée.
Oui.
Vous voyez, je n'ai pas le temps même de me dire ça. Qu'est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est de l'amour? Il n'en est pas question. C'est quelque chose que je suis en train d'essayer de monter. C'est comme une sorte de montage de choses et qui n'entre pas dans toutes ces catégories.
Oui, la catégorie au fond morale que représente
morale,
la souffrance,
oui, c'est cela, ou psychologique.
Oui. Et pourtant, ce sont des sensations continuellement. Il n'y a pas un instant où ces êtres ne sont pas la proie de sensations. Ce ne sont que des sensations.
Exactement. Et alors, je les prends à ces moments-là.
Oui.
Uniquement à ces moments-là.
Ils croient qu'ils parlent ou qu'ils pensent, mais en vérité, ils éprouvent.
Tout d'un coup, quelque chose s'entrouvre et on aperçoit toute une quantité de choses qui sont cachées. Sartre avait bien vu ça, il avait dit dans sa préface au Portrait d'un inconnu que c'est comme si on soulevait la pierre du lieu commun et dessous, quand on soulève des grosses pierres, on voit tous ces grouillements.
Grouillements.
J'avais trouvé que la comparaison était juste.
Oui, c'est vrai. On sent qu'il n'y a pas, en vérité, qu'il n'y a pas de pierre, qu'il n'y a pas de paysage plat où on peut marcher, qu'il y a partout des grouillements et qu'il n'y a pas de ces contours et de ces choses rassurantes. Et d'ailleurs, Sartre, je me souviens, dit dans sa préface à quel point c'est peu rassurant, justement, à quel point...
Alors, il y a des moments pourtant, tout d'un coup, et qui sont là d'ailleurs parce qu'ils font contraste avec ce qui va venir. Quand on revient à la surface, comme dans Portrait d'un inconnu. Oui. Ces moments, on retourne à la vie banale. On revient un peu à l'apparence.
Oui.
Dans l'œuvre d'art, par exemple. Et ce sont des bonheurs, mais ce sont, à mes yeux, des bonheurs trompeurs en ce qui concerne la substance que je travaille.
Oui.
Ils annoncent généralement qu'on est sorti de cet univers vivant et qu'on commence à monter vers un univers un peu convenu, un peu mort.
Oui.
Serein. Pour, en ce qui me concerne, je ne pense pas du tout que c'est ainsi chez les autres écrivains ou dans la vie, mais moi, en ce qui me concerne, quand on sort de là, on quitte ce qui est pour moi la vie. La vie en tant qu'elle est, qu'elle produit de l'écriture, pour moi. C'est uniquement à l'intérieur de l'œuvre littéraire que je le vois comme ça.
Oui.
Autrement, je me serais tuée depuis longtemps si la vie, pour moi, la vie ré- courante, consistait en des moments pareils.
Sartre a parlé de l'inauthenticité.
C'est cela.
Oui.
Justement, c'est un mot qui n'a plus cours maintenant. Mais vous voyez, dans Vous les entendez, il y avait ces moments qui, d'ailleurs, là, n'étaient pas des moments de...
Oui.
De retour à la convention, quand le père se trouvait au musée devant une sculpture. Mm. Il avait ces moments d'élation, de bonheur, de fusion avec ce qu'il voyait. Ce sont des moments de bonheur mystique.
Oui. N'est-ce pas ? Il y a un très beau moment aussi dans Vous les entendez, où l'ami parvient à apaiser le père, et où il se trouve soudain dans un paysage lisse, un paysage de lune, de clair de lune, et enfin on sent que la menace est bien pire encore. C'est un monde terrible parce que c'est le monde atroce des moments calmes, en vérité. En fait, c'est vrai que souvent les gens sont moins angoissés dans les moments de malheur, de catastrophe, oui, et de choses comme ça. Et en fait, c'est parce que à ce moment-là, je suppose que ce travail intérieur, cette espèce de minage, enfin, ne peut plus s'exercer.
On est dans l'évidence,
oui,
quelque chose d'énorme et qui mobilise à juste titre toutes les forces.
C'est ça.
Tandis que là, on est dans la chose qui n'est pas admise, qui n'a même pas d'existence, si on veut.
Oui.
Et contre laquelle on ne peut pas lutter parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quoi on a affaire.
Et on attend.
On laisse passer.
C'est même pas de la patience.
Dans la réalité, c'est un instinct de conservation très grand qui fait qu'on glisse. On ignore. Mais pendant le temps de la lecture, en tout cas moi, ce que je souhaite, c'est que le lecteur s'y sente chez lui.
C'était un numéro des Chemins de la connaissance consacré au discours intérieur avec Nathalie Sarraute au micro de Viviane Forester. Première diffusion le 28 juin 1974.